être quelque chose qui donc interroge la dimension de l'image. C'est venu comme ça dans la suite du travail que je fais dans le cadre de séminaires ici à Paris, puis dans le cadre, je pense, des effets d'analyse pour mon propre compte, puis dans le cadre, bien sûr, de ce que je peux entendre aussi par rapport aux patients qui viennent parler. Le point de départ, il est à peu près le suivant. Si l'on veut avancer un peu dans notre modernité concernant ce que l'on pourra appeler la dimension de l'audio et du visuel, la question, évidemment, ce n'est pas de commencer à critiquer ce qui se passe, parce qu'on n'avance plus, c'est fini, on a tout compris. C'est d'essayer d'élaborer quelque chose qui concernerait qu'est-ce qu'une image. Et il y a déjà quelque temps, je n'avais sans doute parlé l'an dernier à Besançon, où avait lieu le séminaire jusqu'à présent. C'est une question qui m'est revenue comme ça à partir de Jean-Luc Godard. Vous savez qu'il a réalisé, notamment en créant des images très particulières, quelque chose qu'il a mis du temps à réaliser, qui s'appelle Histoire du cinéma. Et il pose en fait la question du rapport de notre siècle avec l'image, notre siècle, c'est-à-dire le siècle, on pourrait dire le siècle qui vient de passer, puisque le cinéma apparaît quasiment en même temps que la psychanalyse. La première séance de cinéma a lieu à Paris en 1895, et la psychanalyse démarre à peu près au même moment à Vienne. Donc c'est une première question. Quels sont les rapports qui peuvent exister par rapport à ça? C'est une question importante. Il ne faut surtout pas y répondre rapidement. Mais enfin, ça pose toutes sortes de questions. En même temps, à titre comme ça, un peu d'anecdote, mais pas tant que ça, c'est aussi le moment où apparaissent, où se développent, sur le plan, on va dire, de l'urbanisme, les transports en commun. Autrement dit, c'est le moment où les gens commencent à se déplacer relativement facilement. Donc tout ça, dans tout ça, il y a vraiment une question, effectivement, une question du mouvement. Et ce qui importe donc maintenant, je le suppose, c'est d'essayer d'élaborer quelque chose qui serait la façon dont il est possible de supposer ce qu'est une image. Hein, sans partir non plus sur des références, je dirais, rapides de langue, hein, de langue grecque notamment, ça va pas de soi. Et en fait, on pourrait dire que une des grandes questions qui apparaît il y a 2000 ans à peu près, c'est que effectivement un mystère se donne aux êtres humains qui sont soit du côté de la langue grecque, soit du côté du judaïsme, et apparaît effectivement un mystère qui est dit dans la religion chrétienne, le mystère de l'incarnation, et que Paul de Tarse a présenté comme étant l'incarnation, l'image filiale du Père, et puis trop corinthien. C'est-à-dire que la question de l'image, on peut dire, il y a bien sûr une image qui est définie chez les Grecs. Vous savez que le judaïsme se caractérise par le fait qu'il n'y a pas d'image, justement. Et donc, à un moment, on va dire historiquement, mais ça ne suffit pas de dire historiquement, la rencontre de ces deux cultures, qui va donner, entre autres, le christianisme, et notamment celui qui va permettre que le christianisme se développe, et Paul de Tarse, qui est un citoyen romain, qui a une culture grecque et qui est de religion juive. Donc il est tout à fait bien placé, lui, il est vraiment dans l'articulation de cette rencontre. C'est lui qui va notamment nommer cette dimension de l'image filiale du Père, le Fils, et l'image filiale du Père. Et en même temps, Jean, Saint Jean, donc, commence son évangile par « Au commencement était le Verbe ». Et vous voyez qu'il y a quelque chose, alors bien sûr que c'est en grec, c'est pas « verbum », c'est « logos », c'est assez compliqué, mais vous voyez que d'emblée, bien avant notre développement scientifique, s'est posé la question de l'image, et il nous appartient, enfin moi je... C'est du moins comme ça que je rentre dans le questionnement, à partir de mes propres références, qui sont les références du christianisme et du catholicisme, pas du tout pour soutenir ni affonder le christianisme, c'est pas du tout ça la perspective, c'est plutôt de se demander, et c'est une supposition qui est tout à fait valable, si nous ne sommes pas toujours dans les effets de cette apparition de l'image il y a 2000 ans. Alors oui, c'est très compliqué, parce qu'évidemment, on a l'impression d'être dans une période où, de laïcité, comme on dit, revendication de la laïcité, et c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident, sauf si on oppose la laïcité à une pratique religieuse. Or, la laïcité, c'est pas ça du tout, ça vient d'un mot grec, le laïon, qui correspond à une certaine catégorie de citoyens grecs, le laïon, qui s'oppose au démos. Donc vous voyez, c'est pas du tout la démocratie, on confond démocratie, laïcité, etc. Alors que chez les Grecs, c'est des choses qui étaient bien définies. Bon, on pourra reprendre ça une autre fois. Donc, et là, il y a donc ça, parce que comme je le disais tout à l'heure, et puis il y a, qu'est-ce qu'on entend quand on écoute quelqu'un ? Pour autant que cette chair, cette incarnation, cette chair du discours, est quelque chose qui pose la question de la vie. Alors nous connaissons la question de la vie, nous l'avons vu apprise durant nos études, que ce soit des études, quelles qu'elles soient, mais notamment les études de médecine, quelque chose de très particulier, est défini comme étant la vie. Mais on sait bien que c'est une définition qui correspond au fonctionnement des organes. Ce qui est important, c'est le silence des organes. C'est une grande chose qui apparaît dans le développement de la pathologie de la médecine. Mais ça ne dit pas ce qu'est la vie. Autrement dit, la supposition que je voudrais soutenir, notamment cette année, plus particulièrement, c'est quel est le rapport entre la vie et l'image. Ce que j'ai appelé vie de l'image, image de la vie, c'est-à-dire comment peuvent danser ensemble ces deux termes, comment ce duo peut fonctionner de telle façon que quelque chose puisse être transmis. Et l'hypothèse, donc, que je soutiendrai, c'est que c'est ça qui se joue dans une analyse. Dans une analyse, ce qui est au cœur du transfert, bien sûr, on pense que c'est de comprendre, ce qui n'est pas faux. On pense que c'est de retrouver des souvenirs, ce qui n'est pas faux. Mais quelque chose est énigmatique. L'énigmatique passe par cette rencontre tout à fait particulière qui est la dimension du corps. La dimension du corps qui n'est pas du tout le corps anatomique ni le corps physiologique, qui est une présence invisible qui, vous voyez, renvoie, c'est ça la question, à cette dimension du mystère de l'incarnation. Autrement dit, le christianisme, effectivement, qui, vous le savez, s'est développé depuis il y a 2000 ans, de façon tout à fait importante. Sans doute, s'il s'est développé, c'est parce qu'il y a quelque chose, j'insiste bien, je ne suis pas là du tout pour défendre ou pour attaquer le christianisme, donc je ne vais pas parler de la doctrine sur le plan de savoir si c'est souhaitable ou pas. Je prends les choses telles qu'elles peuvent être, sur un mot justement de laïos, c'est-à-dire de laïque, de lecture laïque, pour essayer d'arriver à penser quelque chose. Le christianisme, Et Lacan a cessé de le répéter. Lacan, qui aussi, lui, est de culture pas judaïque, il est de culture, il vient du christianisme et du catholicisme. Il y avait un frère qui était dominicain, donc il parlait beaucoup avec lui, donc on peut se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Et, alors l'hypothèse est là, je peux déjà avancer quelque chose que je soutiendrai, je pense, jusqu'à ce qu'elle s'effondre, parce que c'est comme ça qu'on avance. Je ne sais pas trop ce que je vais dire, puisque je parle comme ça, évidemment, comme ceux d'entre vous qui sont sur un divan essaient de parler. C'est que ce que nous connaissons du christianisme est en fait une censure portée. Une censure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un discours pensé. Tout discours pensé s'établit sur la censure, par définition. C'est-à-dire la censure, ce n'est pas du tout négatif. Hein. Ça permet de mettre les choses en place, à peu près. Et donc, tout discours pensé va dans cette perspective-là. Donc, l'hypothèse, elle est la suivante, c'est que tout ce que nous savons et tout ce que nous avons appris, si nous sommes dans cette culture-là, que nous sommes enfants, tout ce que, par exemple, mes collègues, mes amis qui sont de culture judaïque me disent sur le christianisme, à savoir ce que l'on sait parfaitement bien, c'est-à-dire que le christianisme est basé sur le fait qu'un jour, Paul de Tarse a notamment, après avoir beaucoup parlé à différents endroits, se met à écrire des épîtres et va fonder le christianisme sur quelque chose qui s'appelle le péché originel et sur le fait que cette faute originelle doit être rédimée, rachetée, et que pour que cette rédemption ait lieu, il faut donc que le Père envoie le Fils. Ça, c'est un discours tout à fait compréhensible, tout à fait organisé. À la suite de ça, ben vous savez toutes les fêtes que l'on connaît qui sont organisées, donc c'est tout à fait important. Et tout ceci va commencer à se figer au début du IVe siècle, en 325, à Nicée, par le premier concile, où va être abordée la question de la substance du Fils et du Père, c'est-à-dire qu'ils ont la même substance. En grec, ça se dit homo ousios, même substance. Et Arius, qui prétendait que le Fils n'était pas de la même substance que le Père, est déclaré hérétique. C'est pas évident du tout, parce qu'à ce moment-là, il y a des communautés qui sont, c'est le début du christianisme, il y a des communautés, il y a par exemple Byzance, il y a Jérusalem, il y a Antioche, et on pouvait tout à fait excommunier d'une communauté et être accueilli par une autre communauté. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine tolérance. Jusqu'à ce que toutes les choses au IVe siècle historiquement, c'est ce que nous savons, vont se figer et qu'à la fin du IVe siècle, grâce à Théodose, en 380 ou 82, le christianisme devient la religion d'État. C'est-à-dire qu'on est passé du début du siècle d'une religion persécutée à la religion d'État. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir politique qui se met en place à partir de là. Alors, la question qui nous intéresse par rapport à cette évolution, ça n'est pas tellement l'histoire telle qu'on la connaît, telle que toutes les histoires qu'il va y avoir entre les uns qui ne sont pas conformes et qu'on excommis, puisque dès qu'il y avait connaissance de quelqu'un qui n'était pas conforme, qui proclamait une doctrine différente de la doctrine, on réunissait ce qu'on appelle un concile, et il s'agissait d'arriver à décider avec souvent un appui politique important. C'est comme ça que Constantin, l'empereur romain, en 325, réunit les différents patriarches pour arriver à décider. Ça se passe en grec, celui qui parle grec ne peut pas participer, c'est quelque chose de très particulier. Et donc, on définit les choses. Bon, je laisse de côté l'histoire, toute cette histoire-là, parce que c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse de développer avec vous, c'est qu'est-ce qui fait que... Parce que je vais être amené à un moment ou à un autre à essayer de vous donner une interprétation de certaines scènes de l'Évangile. Une scène particulière qui se trouve dans Saint-Luc, je crois que j'en ai déjà parlé l'an dernier, qui est tout à fait hérétique, hein, au sens où le mot hérétique vient d'un mot grec qui veut dire aïro. Aïro, ça veut dire choisir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Un hérétique, c'est quelqu'un qui est est capable de choisir sa propre interprétation. C'est ça l'hérétique, c'est pas le sens qu'on a habituellement. Et vous verrez que, et là je me référais à Lacan et à son frère notamment, vous verrez qu'on peut tout à fait trouver, c'est ça qui est tout à fait étonnant, à certains moments dans les évangiles, une interprétation de ce qui est, qui correspond exactement à ce qui se passe dans le transfert, la psychanalyse, sauf si on prend la psychanalyse comme, à nouveau, quelque chose où il s'agit d'embarquer quelqu'un dans une histoire qu'il a connue. Ça, il le sait parfaitement, il va y revenir, il va y rentrer, il va développer ça, il va pas cesser de chercher parce que c'est comme ça qu'on est fait. Le problème, c'est d'arriver à l'arracher à ça, et ça, ça se fait par une sorte d'énigme qui fait que parfois ça peut survenir. Donc c'est ça la question. C'est d'arriver à arracher à la répétition infernale, qu'on appelle le déterminisme psychique inconscient, et qui, Freud va dire ça à la fin de sa vie, ce en quoi il rejoint Saint-Paul, et qui correspond en gros à l'existence du déterminisme, c'est quoi? C'est l'existence de la faute originelle. Autrement dit, cette question, vous voyez, de la culpabilité, vous connaissez tout ça, et de la faute, est tout à fait importante. Et le fait que le christianisme est pris tout à fait au sérieux dès le départ, notamment par Saint Paul, enfin par Paul de Tarse, fait que ça a produit des effets tout à fait importants. La grande question, c'est que Paul de Tarse n'a pas dit que ça. Habituellement, quand Paul de Tarse est cité, c'est en référence au péché originel. Alors on retrouve après ça, à la fin du 4e siècle, début du 5e siècle, chez Augustin, Saint-Augustin. Et on peut retrouver ça, ça fait chez Saint-Thomas, etc., au 13e siècle. Mais il y a aussi autre chose. Or, vous savez que ce qui est important dans le transfert, c'est justement pas ce qu'on sait déjà, c'est ce qu'on ne sait pas qu'on sait. Donc c'est la question de l'autre chose. Autrement dit, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre qui est, ça c'est mon interrogation, qui est présent et qui justement est supposé au-delà de toute doctrine, mais qui, on pourrait dire, qui génialement apparaît par ce mystère particulier qui est celui de l'incarnation. Et c'est tout à fait d'actualité, puisque vous savez que la question du corps actuellement est tellement d'actualité que je ne parle pas des idoles dont on a besoin, nous sommes tous des idolâtres, évidemment. Et ceux qui donnent à voir les idoles savent très bien qu'il y a chez tout humain une part d'idolâtrie. Donc la question, c'est pas de dire qu'il ne faut pas être idolâtre. On y est. Le problème, c'est de ne pas être qu'idolâtre. C'est d'être à la fois idolâtre et pas que ça. C'est-à-dire qu'au niveau de ce qu'on nous donne à voir dans le visuel, il y a autre chose que le visuel. Et pour avancer dans cette perspective-là, je dirais que huit siècles après, voyez l'importance du temps, ça ne va pas de soi du tout, 8 siècles après l'apparition de ce mystère qui est l'incarnation, c'est-à-dire ce que l'on appelle, nous, dans la Jésus fait homme, mais Jésus fait homme, ça renvoie plus, quand c'est dit comme ça, au fait que c'est cette morphée grecque, c'est-à-dire que Jésus qui prend l'apparence humaine, ça n'est pas faux, mais on nous a transmis essentiellement ça. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est le discours tel qu'il est dit par cette dimension de ce mystère qu'est l'incarnation, et que Paul d'emblée va proposer comme étant non pas un mystère, mais une énigme. Alors, un mystère, vous savez, on n'a rien à dire, on n'a plus qu'à la boucler, on attend qu'on nous révèle quelque chose. Une énigme, c'est là-dessus qu'est basée la psychanalyse. Vous voyez que c'est apparemment un seul mot, et ça c'est dans Saint-Paul, et je ne l'ai jamais entendu dire comme tel, ce qui montre à quel point, comment quand on lit quelqu'un, évidemment on y trouve ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas, mais on ne peut pas y trouver facilement autre chose. Alors, 8 siècles après cette apparition, hein, qui, j'insiste, ça c'est mon hypothèse, hein, je déploie une hypothèse, je ne déploie pas une doctrine. Mais cette hypothèse, je la fais fonctionner à partir de ce qu'on peut entendre dans le discours de quelqu'un qui parle, actuellement sur un vivant. C'est-à-dire que je suis complètement en dehors de toute référence scientifique là. Et pourtant, je suis au cœur de ce sur quoi vient buter tout questionnement scientifique, qui est le fait qu'il y a autre chose que ce que l'on voit. Vous savez que la définition de l'apparition de la science se base sur ce qu'on appelle l'observation. Hein, c'est ceux qui ont fait médecine parmi vous savent très bien ce que c'est une observation, notamment, puisque l'observation clinique, c'est capital, c'est ce qui définit, il s'agit de trouver, médecine ou d'autres formations, mais qui touchent à la question du corps, il s'agit de trouver les signes, la sémiologie, les signes, et la sémiologie, elle se fait par une observation qui pourrait être visuelle, qui pourrait être tactile, qui pourrait être auditive, mais il s'agit toujours de quelque chose qui passe par la dimension du sens, des sens et de la physiologie. Alors, il ne suffit pas de dire qu'il y a autre chose que ça, et que ça c'est la dimension du sujet, ou que c'est la dimension du sujet. Il s'agit, au contraire, je pense, de partir du fait que c'est pour autant que l'on peut rencontrer la dimension du visuel, de l'audible, c'est pour ça que c'est important peut-être d'écouter quelqu'un, en voyant son image, parce qu'on peut entendre autre chose que, apparemment, ce qu'il est en train de dire, ou du moins on peut lire sur son visage ou sur son corps autre chose, c'est ça l'idée qui est en jeu. Et il y a une certaine approche de cette question-là dans le transfert, notamment dans le fait de ne pas être en face à face, hein, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça, c'est une supposition, c'est pas par hasard. Et donc, je reviens, 8 siècles après ce dogme, la question, enfin 8 siècles, oui, c'est à 8 siècles après, la question apparaît à Byzance, hein, Byzance, c'est Constantinople, c'est Istanbul actuellement, où, du fait du développement des icônes, des images particulières de la Vierge, du Christ et des Saints, va apparaître un conflit entre deux positions différentes. Ceux qui vont considérer que, alors ça apparaît en, notamment en 740, et le conflit apparaît du fait que un empereur byzantin, Constantin V, qui s'est entouré de théologiens, ce que je suis en train de dire, j'insiste bien, ne correspond pas à un discours théologique, qui s'est entouré de théologiens, décide et propose, parce qu'il est empereur, donc il a un pouvoir important, que les images religieuses, qu'on appelle les icônes, doivent être détruites. C'est ce qu'on appelle la position des iconoclastes. Elles doivent être détruites. Et il y a toute une élaboration tout à fait sérieuse pour l'expliquer. Il revient sur ce mystère de l'incarnation, qui consiste à dire que le Fils est donc l'image invisible du Père. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord là-dessus, qu'on soit iconoclaste ou iconophile, on est d'accord là-dessus, c'est-à-dire que cette image naturelle du Père qui est le Fils, on est d'accord, elle est invisible, mais il ne peut pas y avoir une image de cette image, c'est-à-dire que les icônes ne peuvent pas être de même, elle ne peut pas être ressemblant à cette image-là. Et du fait que cette image ne peut pas être ressemblante, que l'icône ne peut pas être ressemblant à l'image, il en résulte que il faut les détruire. Mais il y a un coup politique, comme toujours, qui est derrière ça, c'est qu'à la place des représentations de Marie, des saints et du Christ, il y aura la représentation de l'empereur. C'est-à-dire que quand on est iconoclaste, ce n'est pas seulement qu'on fait disparaître les icônes qui sont des représentations de saints, c'est qu'il a bien compris, ce Constantin V, c'est pas Constantin Ier, qui est celui qui a réuni le Concile de Nicée en 325, qui est un empereur romain, celui-là c'est un empereur romain, celui-là c'est un empereur byzantin, ça se passe à Byzance, il a bien compris le pouvoir des images et le fait que si on véhicule des images avec des effigies, notamment la sienne, eh bien ça va faire connaître beaucoup, ça va le faire connaître beaucoup et assurer son pouvoir. Donc vous voyez que d'emblée, cette question du pouvoir de l'image, ça apparaît il y a très longtemps, et que, et c'est ça qui est intéressant, ça renvoie au point de départ qui est cette dimension de l'incarnation. Alors la grande question que je me pose, moi, c'est pourquoi en fait, au moment où ça a eu lieu, il y a 2000 ans, le judaïsme a été aussi hostile à Paul, puisqu'ils ont rejeté tout ce qu'il a élaboré. Alors, on peut toujours l'expliquer, cette affaire. On peut toujours l'expliquer. Mais je pense qu'il y a des choses tout à fait importantes autour de ça. On y reviendra peut-être. Donc, apparaît au 8e siècle ce conflit particulier, avec d'un côté ceux qui vont faire disparaître ce qu'on appellera les images saintes, les icônes, et puis ceux qui soutiennent l'importance des icônes. Les iconophiles. Ce conflit se résout par la victoire, c'est une querelle tout à fait importante, ceux qui n'étaient pas d'accord, c'était pas une discussion uniquement comme ça, ça produisait des... ceux qui ne sont pas d'accord au départ sont exilés, ils doivent partir sous peine d'être mis en prison et exécutés. Et c'est donc les iconophiles qui gagnent, ça se passe en deux manches, on pourrait dire. Les iconophiles gagnent, et 30 ans après, et cette victoire apparaît dans ce que l'on appelle le concile de Nicée II en 787, donc de notre ère, là. Et 30 ans après, ça recommence, un nouvel empereur byzantin, qui s'appelle Léon V, remet en route la question de la disparition des icônes. Donc il y a une nouvelle crise iconoclastique, et cette deuxième crise iconoclastique est beaucoup plus importante, et surtout elle va mettre en place une réponse qui n'est, parce que à la première on avait répondu essentiellement par des arguments théologiques. À la deuxième, la réponse va être une réponse essentiellement philosophique, et c'est à nouveau les iconophiles qui vont gagner cette deuxième manche, et l'un d'eux, qui s'appelle Nicéphore, le patriarche, qui a dû s'exiler, de 818 à 820, va écrire un ouvrage qui s'appelle « Les Antirétiques ». Et dans cet ouvrage, il va faire la défense des icônes à partir de textes grecs. Donc ça nous ramène à ce qui s'est passé bien auparavant. Il parle d'Aristote et d'un ouvrage d'Aristote qui s'appelle l'Organon, c'est un ouvrage de logique, quelque chose de très particulier, et en langue grecque il répond aux accusations des iconoclastes, et c'est donc le patriarche, lui, qui va gagner. Et donc les iconophiles vont gagner et les icônes vont être établies. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qu'on nous décrit comme querelle, comme guerre des images, à ce moment-là, l'idée que j'en avais avant que je m'intéresse beaucoup, c'était qu'il y a eu un moment dans l'histoire, des gens qui ont voulu faire disparaître les images saintes, ça s'appelle les iconoclastes, et puis que finalement, c'est les iconophiles qui sont arrivés à suspendre ce mouvement. Vous voyez que c'est beaucoup plus élaboré que ça. Ça se passe en deux temps, premièrement. Et deuxièmement, ça se passe à partir de quoi ? À partir de la langue grecque. Et un signifiant en particulier, là je renvoie au travail assez complexe, mais tout à fait important, de Marie-Josée Monzin, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qui a écrit un livre, notamment, vers les années 1995-96, qui s'appelle... icônes, images et économie, et elle centre, et là on est très proche, on pourrait dire, du transfert de l'analyse, elle centre tout le débat autour d'un seul mot, qui est un mot grec, qui s'appelle eikonomia, on va dire que c'est économie, à ceci près que eikonomos, si on veut le décomposer en grec, vous retrouverez nomos, qui veut dire la loi, eiko, qui veut dire paraître. C'est donc la loi de ce qui paraît. Et puis, il y a un glissement au niveau de, sur un mode de diphtongue, de leikos à loikos. Loikos, c'est la maison. Ce qui fait que l'économie et l'oikonomie vont être très très proches. Vous voyez qu'on est très proche de ce qui peut se passer à certains moments dans le transfert au niveau d'un glissement purement, on va dire, purement qui s'entend et qui s'écrit. Et que cette dimension-là de l'économie, en fait, telle qu'elle est définie par Nicéphore, le patriarche, va permettre, alors je vais en dire un mot quand même parce qu'on y arrive, va permettre d'articuler l'icône, c'est-à-dire l'image de l'image invisible, je vais revenir un peu là-dessus parce que c'est sans doute pas évident ce que je vais dire. Si on reprend les éléments, on a donc le fait que apparaît, et j'insiste bien, je ne parle pas du tout de position théologique, théologien. Apparaît il y a 2000 ans. Ça existe en tant que tel, c'est dans des écrits. Apparaît, et quelle que soit la figure qu'on discute du Christ ou pas. C'est pas la question, c'est pas ça que je suis pas en train de faire une accusation, une défense christologique. C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est le propos de celui qui entend quelque chose quand il écoute quelqu'un, ou quand il lit quelque chose. Eh bien, apparaît donc, il y a un peu plus de 2000 ans, quelque chose dont on peut trouver les traces dans le discours, notamment chez Paul de Tarse, qui s'appelle l'image. C'est pas l'image grecque. Ne serait-ce que, vous savez sans doute ça, habituellement, l'image grecque se définit de profil. Ça s'appelle le profil grec, vous savez ça. Le profil grec. C'est une image de face à face. Et vous savez, la question du face à face est absolument impossible dans le judaïsme. Donc apparaît à un moment dans l'histoire quelque chose qu'on nous a complètement raté, comme on nous a dit. D'ailleurs, il y a par exemple, on nous le dit, puisque ceux qui nous ont dit ça ne le savaient pas, je pense vraiment, n'avaient pas été traversés par cette question-là. Apparaît une image particulière qui est celle de face, qui est celle de la vie particulière qui se donne par cette dimension d'un mystère, qui est la question de l'incarnation. Et par rapport à cette image invisible, progressivement va se développer l'importance, c'est ça qui se passe notamment à Byzance, l'importance de donner une image visible de cette image invisible. Ceci, ça s'appelle l'icône. Et les politiques, c'est-à-dire l'empereur de Byzance, les empereurs de Byzance, vont rapidement se rendre compte du poids énorme, c'est-à-dire du fait que ce qui se passe dans le christianisme est tout à fait important, et vont essayer de récupérer ça en faisant disparaître les icônes, ça s'appelle les iconoclastes, c'est la position iconoclastique, et que finalement, c'est ceux qui auraient dû gagner, a priori, c'est-à-dire ce pouvoir politique, qui vont perdre. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qui fait que les iconoclastes n'ont pas gagné? Qu'est-ce qui fait que c'est les iconophiles qui ont gagné? Mais c'est exactement la question qui se pose, je pense, dans le transfert, pas forcément sur un combat comme je le dis, mais je crois que c'est quelque chose du même ordre. C'est la différence entre le signifié, le sens, la compréhension, ce dont on a besoin, mais ce dont on souffre énormément, parce qu'on va se sentir humilié, tout ce qu'on voudra, souffrant, etc. Ça, c'est du sens, hein. Tout ce qui est de l'ordre de la pression, de la dépression ou de l'angoisse. Et puis, autre chose qui n'est pas la dimension du mot, mais qui est la question du son, et qui nous ramène à la musique et au chant, enfin, plus exactement à la voix, et le fait que on peut trouver d'emblée, et là je convoque Lacan, ce que Lacan définit comme étant le stade du miroir, c'est l'incarnation. À condition de ne pas prendre ça sur une dimension théologique. Parce que dès qu'on prend ça, on n'est plus objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si vous prenez les textes, vous allez trouver ça, vous allez trouver la voix qui annonce, c'est Jean-Baptiste, qui annonce cette image qui va arriver. Et cette voix, c'est comme ça que se définit le stade du miroir. Le stade du miroir, c'est une image à laquelle on s'identifie, pour autant qu'elle est portée par la voix de l'autre. ça, si ce n'est pas, si c'est pas l'incarnation, donc, on n'a pas compris. Tout ça pour montrer l'importance de ce qui se passe à ce moment très précis, il y a 2000 ans, et qu'on est toujours dans les effets de ça. Le problème, c'est qu'actuellement, on croit s'en affranchir en glissant du côté de l'idole. On définit ce que c'est qu'une idole. On a donc à définir ce que c'est qu'une image, ce que c'est qu'une icône et ce que c'est qu'une idole. Et à partir de là, on arrivera peut-être un peu à se repérer dans le fait qu'il y a un au-delà du visuel. Et que quand vous regardez une icône, ce qui peut vous apparaître d'important, comme quand vous regardez un tableau, c'est pas ce que vous voyez. Parce que toute la question du visuel, c'est comme le stade du miroir, c'est l'aliénation. Et pourtant, il peut arriver parfois qu'un jour, que regardant tel tableau, ou regardant telle icône, vous soyez regardé par quelque chose qui vient du tableau. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension de l'objet-regard en psychanalyse, c'est ce que Lacan va définir comme étant le regard. Alors, vous voyez que dans l'icône elle-même, il y a la question du regard. Donc, il faut opposer la vue de l'icône au regard qui nous revient de l'autre. Et c'est ça qui se passe, et c'est ça qui peut se passer dans le transfert à un moment ou à un autre. Alors, ceci est important, pourquoi ? C'est important parce que chacun d'entre nous le sait, pour le savoir de lui-même ou de personnes qui peuvent entendre, que nous sommes effectivement dans un monde où ce qui est en souffrance, c'est l'incarnation. Je m'explique. Tout ce qu'on peut voir, et on adore ça, quitte à en crever, d'une certaine manière, quitte à laisser sa peau, on adore certaines formes particulières, c'est promu. Vous pouvez retrouver là-dedans toute la pathologie, aboulie, anorexie, tous les arts quelconques, polie, tout ce que vous voudrez. De sens, il s'agit de cette dimension de l'image. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit du corps, c'est passé dans les concepts psychanalytiques, on parle d'image de corps, d'image du corps. Dès qu'il s'agit du corps, si on n'est pas complètement halluciné par la représentation du corps tel que nous la transmet, je dirais, la médecine, puis après avec la médecine du magazine, c'est-à-dire tout ce qu'on peut voir, dès qu'on touche à la question du corps, on touche à la question d'une image invisible qui a été mystérieusement, qui est apparue, on pourrait dire mystérieusement, comme énoncée il y a 2000 ans. Bien sûr qu'elle existait avant, c'est pas le problème, elle est apparue dans l'histoire à un certain moment. Et l'hypothèse que je formule, ma grande question à moi, c'est qu'est-ce qui fait que, 3 siècles plus tard, lorsque le christianisme se développe, cette dimension de l'image est laissée de côté, ou du moins est récupérée autrement, par la dimension de la venue de Jésus, etc., pour effacer la tâche originelle, etc., de telle façon que tout ça va se figer dans une théologisation particulière, c'est-à-dire une théorisation particulière, et qui fait qu'on va oublier l'énigme de l'image. Parce que si vous prenez en compte l'énigme, il n'y a plus de dogme. Par définition. Il ne peut pas y avoir le dogme et l'énigme, ce n'est pas possible. Donc vous voyez, on touche par ce biais-là à des choses tout à fait importantes, dans lesquelles on est plus ou moins pris, qu'on le sache ou non, et qui, bien sûr, dans les discours, je dirais, actuels, habituels, ne sont pas du tout pris en compte, parce qu'effectivement, on peut dire que tous ceux qui nous parlent habituellement sont d'une telle inconséquence intellectuelle, ils sont incapables de rien penser du tout, parce que si vous écoutez les philosophes bien connus qui passent sur la télévision parler de ce que c'est que Dieu visuel, vous allez rapidement comprendre qu'en 2 minutes, vous avez tout compris ce qu'ils savent. Ils savent vraiment ce que c'est qu'une image, alors que je savais qu'ils m'expliquent ce que c'est qu'une image. Moi, je ne sais toujours pas. Je sais que ce qui est important au niveau d'une image, c'est l'invisibilité, non pas du tout ce qu'on voit. Ce qu'on voit, ce n'est pas l'image. C'est le visuel de l'image. Ce n'est pas l'image. Ce n'est pas ça l'image. Et puis, ils vous refont le monde en deux, trois mouvements, vous disant qu'il ne faut pas regarder la télé parce que c'est pas du tout le problème. Le problème, c'est pas de regarder ou pas la télé. C'est simplement que quand un enfant regarde la télé, il faudrait peut-être qu'il puisse parler avec quelqu'un. Voilà, voilà le problème. S'il est seul devant cette espèce d'idolâtrie, et puis surtout s'il sent que ses parents refusent toute position idolâtrique, il va encore bien plus y plonger. Bon. Ou alors, y suivre par obéissance. Enfin, ça ne change pas grand-chose. Donc la grande énigme, je pense, pour un peu avancer, la grande énigme, et je vais vous dire comment elle apparaît, parce que on trouve ça dans les textes, on n'a pas beaucoup avancé, on sait beaucoup de choses maintenant, on fait des téléphones, on fait toutes sortes de choses. Voilà ce que dit Augustin, je vous ramène le texte, par rapport à la façon dont dans la première épître aux Corinthiens, Paul pose la question de l'image, il dit ceci. Nous voyons maintenant à travers un miroir. Videamus nunc perspiculum. En énigme. Avant, on ne pouvait pas se voir à travers un miroir. Dans le judaïsme, c'est absolument impossible. C'est interdit. Mais alors, nous verrons face à face. C'est ça le nouveau. C'est-à-dire que ce qu'introduit cette dimension de l'incarnation, c'est ça. Par le biais de cette image, il faut sortir l'incarnation uniquement du corps et de la chair tel qu'on peut l'imaginer, et pourtant il y a ça. C'est le fait qu'apparaît à un moment cette dimension de l'image, mais nous nous voyons, comme le dit Paul, c'est génial, c'est la théorie de l'accord, nous nous voyons en énigme. Alors que, auparavant, l'incarnation était présentée comme un mystère. Avec Paul, il y a passage du mystère à l'énigme. Et ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ce passage du mystère à l'énigme, c'est toute l'ouverture à laquelle nous sommes appelés. Et en fait, c'est déjà quelque chose qui, on pourrait dire, anticipe la fermeture qui va apparaître par les positions dogmatiques qui vont apparaître après. Parce que dès qu'il y a l'énigme, on ne peut plus faire de dogme. Quelqu'un qui se réfère à l'énigme ne peut pas dire « Moi j'ai raison, toi tu as tort. » C'est plus possible, vous voyez la puissance de ce mot-là. Or, Augustin, alors sans doute sa vie et ce qu'il avait connu avant y est pour quelque chose, voilà ce qu'il va... Il reprend le texte de l'Épître aux Corinthiens et il dit ceci. Alors, je vous renvoie à De Trinitate, ça c'est en latin, je ne vais pas le dire en latin, je vais le dire en français quand même. Et voici la plus grande énigme, voilà ce qu'il écrit. Que nous ne voyons pas ce que nous ne pouvons pas ne pas voir. Que nous ne voyons pas ce que nous ne pouvons pas ne pas voir. Ça c'est Lacan, typique. Que nous ne voyons pas ce que nous ne pouvons pas ne pas voir. C'est pas que nous voyons ce que nous pouvons pas ne pas voir. C'est que nous ne voyons pas ce que nous ne pouvons pas ne pas voir. Allez, ça c'est le tricot. Ça c'est la langue. Ça c'est être pris par la façon dont fonctionne la langue. Il contrôle rien du tout. Il s'agit de laisser aller ce qui vient quand on parle. Que nous ne voyons pas ce que nous ne pouvons pas ne pas voir. Et voilà, Augustin. Donc, vous voyez qu'il y a comme ça des choses assez étranges qu'on peut trouver chez... Je sais pas, c'est pas n'importe qui, évidemment. Hein, c'est Augustin. Hein, bon, évidemment, c'est Augustin, il va reprendre tout ce qu'a dit Paul sur le péché originel. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Le problème, c'est de trouver quelque chose d'autre qui fasse qu'on puisse aller un peu ailleurs. Alors, je pense que j'en ai déjà pas mal dit. Je vais m'arrêter aujourd'hui là-dessus, et puis on va peut-être un peu discuter si.